Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast qui vous emmène vivre ailleurs.
En cette période de Noël, je sors un épisode un peu spécial. Vous l'entendez derrière moi, je ne suis pas en France pour les fêtes. Je suis sous les tropiques. Et pourtant, Noël, c'est un moment important. Noël, avant tout, c'est la famille. Cet épisode me permet de rendre un petit peu hommage à ma famille, car je suis partie discuter voyage avec quelqu'un que je connais très bien, ma cousine, Colline. Colline, je la connais depuis toujours, et elle a toujours été en dehors des chemins tracés. Elle voyage plus ou moins à temps plein depuis près de 8 ans. Elle est épatante et toujours positive, et ce n'est pas que moi qui le dis. Avec Colline, on a parlé de comment faire du voyage son activité principale, de comment elle est devenue barista à l'étranger, des rencontres en voyage, de yoga, de bienveillance et de positivité, et de Gunther, son nouvel amoureux. J'espère que vous apprécierez cet épisode, mais je n'en doute pas, car tout le monde aime Coco. Bonne écoute.
C'est parti.
C'est parti.
Bonjour Colline.
Bonjour Anastasia.
Donc j'ai préparé un petit texte d'introduction de ta personne.
Oh.
Colline.
Oui.
Virgule.
Oui, c'est moi.
Tu as commencé à voyager seule en 2011 et tu as vécu dans de nombreux pays. Écosse, 2 ans en Australie, 10 mois en Nouvelle-Zélande, 6 mois au Portugal, la Malaisie, sans compter les pays où tu as juste visité. Tu es connue dans la famille pour être la roots, la fille qui est toujours ici et là, qui va et vient au gré de ses envies et qui fait ce qu'elle veut.
Ouais.
J'ai pas fini. Okay. Pendant longtemps, je t'avais mis dans cette case, moi aussi, me disant que le voyage, que l'aventure, ça t'est réservé aux gens comme toi. Ces voyageurs extraordinaires qui portent les sarouels et se déplacent en stop.
J'ai pas fait beaucoup de stop. Hein.
Oui, mais tu portes des sarouels.
Pas vraiment, non. Je porte des pantalons confortables, légers.
Avec des motifs d'éléphants dessus.
Non, je les ai bazardés, ceux-là.
Moi-même, j'en ai. Donc moi, j'étais de l'autre côté, de ceux qui ont pour modèle de réussite dans la vie l'argent et la reconnaissance. Aujourd'hui, je réalise que j'ai été bercée d'illusions et qu'on a voulu me faire entrer dans la tête des principes que je ne cautionne plus. Je me suis rendu compte que tu avais peut-être raison.
Oh.
Que la vie, c'était pas forcément suivre le chemin que d'autres personnes avaient tracé pour toi. Et que le voyage n'était pas réservé aux porteurs de dread.
Non. Bien. Tu ouvres ton esprit.
Comme quoi?
Comme quoi?
Et donc, il y a autant de façons de voyager qu'il y a de voyageurs. Donc ma première question. Mmh. Et la suivante, comment est-ce que tu définis ton style de vie? Est-ce que tu considères que c'est du voyage?
Ouh, alors, bonne question. Mon style de vie, j'avoue que je sais jamais ce que je vais faire au final. C'est vraiment très vague dans ma tête. Je voyage, oui, parce que je prends l'avion, parce que je prends le bus, le train et tout ça, et que je vais dans différents pays. Mais sur la période de temps où je suis dans un pays, c'est très rare au final que je ne travaille pas.
D'accord.
Par exemple, en Australie, j'y suis restée près de un petit peu moins de 2 ans, parce que j'ai pas fini mon deuxième visa, mais c'était un mois après. Et j'ai eu, sur les 2 ans, j'ai peut-être fait 4 mois de voyage.
De non-travail, quoi.
De non-travail, ouais.
Donc c'est un style de vie quand même qui est particulier. Parce que tu vas dans des pays pour y travailler, pour faire des rencontres, mais en même temps, ouais, est-ce que tu considères ça comme du voyage?
Bah, oui, c'est du voyage. Mm-hmm. Oui, bah oui, c'est du voyage. Forcément, je suis pas en France. Mais pour moi, quand je travaille dans un autre pays, un pays non francophone, même si je travaille beaucoup, quand j'étais en Australie, j'avais des semaines à 50, 60 heures.
Ah oui.
Quand j'étais au Portugal, des semaines à 80.
Ça, c'est illégal, ça, madame. Voilà.
On est d'accord, c'est illégal. Mais après, j'avais une semaine de pause au Portugal. Mm. Enfin bon, le fait de ne pas parler la même langue que ta langue natale, même si tu tapes des heures illégales, hein, ça passe mieux parce que tu apprends une autre langue, tu rencontres des personnes que tu pensais pas rencontrer et tu apprends une autre langue et une autre culture à travers le travail. Et donc, ça te permet aussi de mieux t'intégrer dans la communauté où tu es, si tu travailles. Mm. Si tu rencontres quelqu'un dans la rue.
Rencontrer des locaux aussi.
Voilà, quand j'étais en Malaisie, j'ai travaillé dans un café, j'ai travaillé dans une guest house. Et quand tu te balades dans la rue, on te voit un peu moins comme une touriste. On te voit comme la nana qui bosse au café ou la nana qui bosse là-bas. T'es un petit peu mieux intégrée et aussi t'as le temps de parler aux gens. C'était ça qui me frustrait dans les autres voyages que j'ai pu faire voyage touristique. C'est que tu vas dans un endroit, cet endroit, tu t'y sens bien, alors tu te sens pas forcément bien partout, mais quand tu dois partir, t'es frustrée parce que t'aurais aimé rester encore un peu plus longtemps pour discuter plus de temps avec cette personne, pour passer plus de temps dans cet endroit. Et au final, tu peux pas parce que t'as ton avion et tu dois rentrer et c'était juste des vacances.
Ouais, puis t'as moins d'opportunités de rencontrer des gens aussi quand t'es dans ton mode voyage, en mode je visite des trucs touristiques et tout.
Ouais.
Tu as commencé à voyager quand tu étais ado. Raconte-nous ton premier voyage, donc comment ça s'est fait et comment tu as décidé de partir.
Donc ça, c'était le Burkina Faso.
Exactement.
D'accord. Quand j'avais 16 ans et demi.
Donc quand tu étais ado. Ouais, bon.
Ouais.
Fin d'adolescence, quoi.
Ouais, bon. C'était... c'est la première fois que j'ai pris l'avion. C'était un samedi matin. Une amie devait venir me chercher pour aller en cours. Et mes parents, au petit-déj, ils discutent et ma mère demande à mon père « Ah, t'y vas à quelle heure ?» Moi, je dis « Ah, tu vas où ?»« Ah, je vais faire des vaccins. » Mais pourquoi ?»« Ah, parce que je pars au Burkina Faso, je crois, c'était la semaine d'après ou dans 10 jours, quoi. »
D'accord.
J'étais « Ah, ok, vive la communication.
» C'est vrai.
Bon, maintenant, on a un petit peu moins de problèmes de communication vu qu'on a WhatsApp. Donc voilà, ouais,
la technologie, ça a aidé.
Conf-call de famille, quoi. Du coup, moi j'étais, mais cool, enfin moi aussi j'aurais bien aimé y aller, merci de me prévenir, depuis le temps que je vous dis que j'aimerais bien aller en Afrique et tout ça. Donc mon père m'a dit, vas-y, viens.
Bien.
Vas-y, viens. Donc j'y suis allée, et je suis allée faire les vaccins avec lui. Et je suis partie une semaine après au Burkina Faso. Donc comment il a eu ce plan Burkina Faso, c'est que mon père à l'époque montait des cybercafés et il avait monté un cybercafé à Strasbourg qui s'appelait Utopie. Un jour, un médecin, un pédiatre est venu le rencontrer parce que justement il avait tilté sur ce nom Utopie. Et en fait, il lui a demandé si c'était possible d'aller au Burkina Faso et de monter ce cybercafé, de l'aider à monter ce cybercafé. Et donc les fonds qui viendraient subventionner l'orphelinat, un orphelinat, venaient du cybercafé qu'il allait aider à monter.
D'accord, ouais. Ok.
Donc on y est allé, ça tombait bien parce qu'à l'époque j'étais en seconde, c'était ma deuxième seconde. Et en fait ça tombait pendant les vacances, donc j'ai pu aller avec lui, c'était au mois de mars, j'ai pu aller avec lui pendant une semaine. J'y suis allée. La seule chose que j'avais en tête en revenant, c'était d'y retourner. Mes parents ont dit « Ok, on ne te donne pas d'argent. »
Donc, t'es mère de toi.
T'es mère de toi. Mon père m'a quand même pas mal aidé. Il a essayé de trouver en fait des subventions. Et en fait, peut-être un jour après, ça s'est joué à quelques jours. Il a vu dans le journal une annonce Crédit Mutuel qui propose des concours pour subventionner en fait des projets jeunes. Le truc, c'était que c'était 3 jours après.
Enfin, qu'il
fallait rendre le dossier. Donc jour où j'ai appris qu'il y avait ce truc des subventions, 3 jours après, il fallait rendre un dossier. J'avais jamais fait de dossier de ma vie.
16 ans. Bonsoir.
Comment je fais ? J'ai essayé un peu d'arranger ça. Mon père m'a fait un coup de main, ma mère aussi. Je dormais avec un bloc-notes à côté de ma tête, à côté de mon lit. ça m'est arrivé de me réveiller en pleine nuit, d'avoir une idée et de la noter. En 3 jours, j'avais plié le truc.
Purée.
Et ce que j'ai fait, donc j'en ai profité, j'ai utilisé ce support pour le présenter à ma classe. Et mon projet, c'était de partir 4 semaines et de faire la moitié du temps. On donnerait des cours bénévolement dans ce cybercafé.
D'accord.
Donc, basique. Des cours d'informatique.
Okay.
Donc, comment allumer un ordinateur, faire un truc Word, vraiment très basique. Quoi.
Okay.
à côté de ça, donnaient un coup de main à l'orphelinat. Et donc, c'était des enfants de 0 à 2 ans.
D'accord.
Déposés par leur famille parce qu'ils ne pouvaient pas s'en occuper ou parce que la mère était morte en couche. Enfin, il y avait beaucoup de... Il y avait des gamins qui avaient le paludisme aussi. Enfin, c'était... Donc, voilà. Elles s'occupaient des gamins, jouaient avec eux, leur donner à manger et tout ça.
OK.
Et partageaient le temps entre le cyber et l'orphelinat. Donc, j'ai présenté ce projet... à ma classe, il y a eu j'ai demandé à ce que les gens me fassent une lettre de motivation.
C'est pas vrai.
Si.
T'as eu des candidatures? T'as eu beaucoup de candidatures, je veux
dire. Il y en avait beaucoup. Tu vois, quand tu proposes un truc comme ça, il y en a beaucoup qui sont ah ouais carrément. Et, oui. Et au final, il y en avait que 3 qui étaient vraiment motivés, et donc 2 mecs et une nana. Comme je savais pas si j'allais avoir une subvention, ne serait-ce qu'un petit peu du Crédit Mutuel, il fallait mettre en place d'autres autofinancements. Donc, on a commencé à faire un autre dossier, accompagné par une structure qui était à côté de notre lycée. On avait fait des concerts, on avait fait vente de pain au chocolat. Non, c'était du pain au chocolat. On a fait de l'ensachage.
Tu mets des trucs dans les sachets?
Ouais. À la sortie d'un supermarché, on avait un stand avec des produits qui venaient de l'orphelinat, genre des trousses, des trucs comme ça. Voilà. J'ai motivé l'orchestre dans lequel je joue de mon village à faire un concert où les dons iraient pour financer notre voyage et aussi pour aider l'orphelinat. Mmh. Donc voilà, on a fait tout ça et quand même le but, ça c'était en mars, enfin j'y suis allée en mars la première fois et le but c'était d'y retourner en juin. Donc
3 mois
juin,
après
juillet,
quoi.
3 mois après.
Okay.
Donc ma
short.
Ma chère Mouti était à... Tu sais, il n'y a rien de moins sûr.
C'est chaud.
C'est chaud. Bon, j'avoue, c'était chaud. Quand même, au final, on a réussi à financer les 3/4 du budget de chacun, pour chacun.
Cool.
Sachant que j'ai eu premier prix au truc du Crédit Mutuel.
Mm-hmm.
Et on a eu aussi un prix.
Parfait.
Donc ça nous a bien aidé. Et plus tous les autofinancements qu'on avait fait. Voilà, on y est retourné. C'était génial.
Est-ce que tu dirais que c'est avec cette expérience que ta passion du voyage est née ?
Oui, ça a été surtout une ouverture sur le boulot que je voulais faire.
Plus. D'accord.
La passion du voyage, je peux dire que je l'ai depuis que je suis toute petite, parce que je partais en colo depuis que mes 4 ans, 4-5 ans, c'était ma première colo. Jusqu'à mes 18 ans, après j'ai fait le BAFA. J'adorais ça et je ne concevais pas un été sans colo.
D'accord.
Donc j'avais la chance que mes 2 frangins n'aimaient pas aller en colo. Je crois qu'ils sont allés une fois ou 2. Parce que comme ça, moi, je pouvais avoir toutes les subventions que le CE, ma mère, le CE de ma mère pouvait financer. Ils finançaient les colos, ils aidaient à payer les colos.
Cool.
Et donc moi, je pouvais avoir tous les financements pour me payer mes petites colos de cheval. Et je partais toujours en 18 jours à peu près. Et je me suis rendu compte aussi plus tard, c'était que je choisissais toujours les colos les plus loin.
Ah oui.
Mais en France.
C'est toujours en France, ouais.
Mais les plus loin possibles pour que, au final, mes parents viennent pas me chercher au milieu de la colo et voilà.
Et pour kiffer ton expérience.
Ouais, et je pense que ça m'a vraiment aidé à pouvoir vivre en communauté et à ne pas avoir peur d'être loin de chez moi et pouvoir avoir le courage d'aller parler au nouveau, parce qu'au final j'ai peut-être fait une ou deux, enfin quelques colos avec des gens, une copine ou 2 copines quoi.
D'accord,
mais
ouais.
Sinon je crois que les 3/4 je les ai faites toute seule.
Ça t'a amené à être plus sociable.
Ouais, et je pleurais tout le temps à la fin.
Donc tu le disais que le Burkina Faso ça t'a aidé à choisir tes études, donc t'as fait des études en développement socioculturel, option humanitaire, bien ça.
Ouais.
Pourquoi t'as choisi ces études ?
Je voulais bosser dans l'associatif à l'international. Je voulais trouver un boulot qui me permette de faire ce que j'aime, donc communiquer avec les gens, enfin être dans le social, et que je puisse voyager en même temps.
D'accord, ouais.
Parce que...
Donc il y avait déjà cette notion de voyage à l'époque.
Ouais. Et avant de faire ces études, j'ai fait mon service civil volontaire pendant 6 mois à Reims, qui m'a permis d'avoir une expérience dans l'associatif, même si j'en avais déjà une via le BAFA, via l'orchestre dans lequel je fais partie. Mais ça, ça m'a permis de bosser dans différentes associations, de voir ce que c'était et d'ajouter du poids dans mon CV, parce que c'était les seules études après bac et dans toute la France. Et genre une classe de 30 personnes.
Donc,
avec
un sacré dossier, quoi. Ouais, donc tu savais déjà que tu voulais t'orienter là-dessus.
Ouais.
Et donc, t'as fait ce DUT.
Ouais.
Et à la fin, la dernière fois, tu m'as dit que tu voulais faire un moment de pause, enfin, avoir un moment de pause. Pourquoi est-ce que t'as pas cherché tout de suite du travail dans cette branche? Pourquoi est-ce que t'as voulu avoir cette pause?
À l'époque, je réfléchissais, j'avais peut-être envie de reprendre des études. Moi, à l'époque, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire psychomotricienne. Et en lien avec la médiation animale. Tous mes dossiers avaient été faits en lien avec la médiation animale.
Ok.
Donc j'avais pas envie de reprendre des études directes. Je savais pas si je voulais travailler direct.
D'accord.
En fait, c'était le gros bordel dans ma tête.
On se pose des questions.
On se pose des questions et.
C'est pas là que t'es partie en Écosse?
Si.
Ah voilà.
Du coup après je suis partie en Écosse.
Parle-en.
Ouais, non mais avant de partir en Écosse, je suis partie vivre dans une coloc à Notre-Dame-des-Landes.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, pendant 3 mois. Et puis bon, 3 mois c'était suffisant. J'ai fait quelques petits boulots et puis après ouais, je voulais partir et donc je suis partie du coup en 2012 en Écosse pendant 3 mois où j'ai fait du woofing.
Toute seule du coup.
Toute seule, oui. Du coup, toute seule.
Et donc, t'as fait du woofing. Explique-nous un petit peu ce que le woofing.
Alors, je ne me souviens plus de ce que cela veut dire.
Oui, non, mais pas la chronique.
Mais en gros, le woofing, c'est tu bosses dans une auberge, dans une ferme.
Chez des particuliers.
Chez des particuliers, ouais. Ou donc, tu travailles pour eux et en contrepartie, t'as le gîte et le couvert. Donc, j'ai fait ça dans les Highlands. Et c'était génial, je vivais dans une caravane, c'était à côté d'un lac, le Loch Tay. Je vivais dans une caravane en plein hiver, hein, moi j'ai des bonnes idées. mais c'était magnifique parce que tous les jours, j'ouvrais ma porte, la caravane, bon j'avais le nez gelé, mais le lac, donc j'avais pleine vue sur le lac. Et le lac, des fois je le voyais, des fois je le voyais pas. Il y avait tellement de pluie ou tellement de neige ou tellement de brouillard. Des fois c'était grand soleil. Et c'était magique, c'était féerique. C'était en Écosse.
Où nous sommes actuellement.
Où nous sommes actuellement.
Et c'est magnifique.
Ouais.
Est-ce que ce premier voyage, ça a déclenché un truc chez toi? Parce que tu disais que c'était une pause, et puis finalement, c'était il y a quand même... C'était quoi, il y a 8 ans maintenant?
Ouais.
Et t'as jamais... Enfin, si t'as repris un petit peu les études, mais t'as...
Ouais.
T'as vite abandonné.
Ben, ça n'allait plus dans mon cheminement, ouais. On va dire. Oui, parce que en revenant d'Écosse, j'ai fait quelques petits boulots. En 2011, j'ai repris des études pour faire une licence de sociaux, 3e année de licence.
Ouais.
Donc, pourquoi? Parce que tout le monde dit, non mais tu trouveras jamais taf avec un DUT, avec un bac plus 2.
C'est pas
et il te faut un bac plus 3.
Ouais.
Je dis, ah bon, ok, je vais faire un bac plus 3. Je voulais rester à Strasbourg, parce que ça faisait, j'avais fait mes études à Bordeaux et j'avais un peu bougé à gauche, à droite, donc... pouvoir passer du temps avec ma famille, mes amis. Et j'ai trouvé cette licence, donc 3e année, c'était en alternance. Et voilà, c'était sociaux en alternance. Et j'avais trouvé une asso qui faisait des chantiers de solidarité. Mmh. Donc le truc qui me branchait bien, pouvoir travailler avec les ados et monter des projets et... en France ou à l'étranger. Et voilà, ça, c'était un truc qui me plaisait bien et dans lequel je me voyais très bien travailler.
Ok.
Donc, j'avais un...
C'est pas
bon. Ouais, mais ça... C'est j'avais une idée très précise du mémoire que je voulais faire. Le problème, c'est que l'association... La seule association qui proposait ça sur Strasbourg m'a planté une semaine avant que je commence les cours. Donc, j'ai dû retrouver un boulot. J'ai trouvé un boulot en tant que pionne dans un lycée. J'ai très vite compris que, en fait, j'allais pas pouvoir faire le mémoire que je voulais faire.
Ouais.
Et mes profs me disaient, change ton mémoire. Et donc, ils me proposaient des trucs et tout.
Mais c'est pas, non, en fait. C'était pas le but, ouais.
Non, c'était pas le but. Pour moi, le but, c'était vraiment d'approfondir la thématique des chantiers de solidarité. Pourquoi les jeunes s'engagent comme moi, j'ai pu m'engager... à 16 ans dans ce genre d'association, voir les différentes raisons. Est-ce qu'il y a un schéma type ou pas? Et c'était vraiment ça qui m'intéressait. J'ai donc décidé d'arrêter. Et j'ai eu mon premier semestre.
Bravo.
J'ai eu mon premier semestre.
T'as pas plus de 2,5.
Voilà, j'ai pas plus de 2,5. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que pour moi, ça n'avait plus de sens. Et quand ça n'a plus de sens dans ma tête, je me dis, je vais pas perdre du temps à faire quelque chose qui, pour lequel je ne crois plus ou je ne crois pas.
Mais quand t'as décidé d'arrêter, quelle a été la réaction de tes parents?
Je me souviens plus.
D'accord, c'est pas grave.
Franchement, je ne me souviens plus, mais je leur ai pas laissé le choix, en fait. Parce que j'avais déjà toute mon argumentation. Avant de présenter un nouveau voyage ou quelque chose à mes parents, à ma famille, à mes amis, j'ai déjà plus ou moins les raisons de pourquoi je vais faire ça. J'ai un fil rouge.
D'accord.
Qui peut changer de temps en temps.
C'est pas dit que ça reste le même.
Mais le temps, à partir du moment où t'es clair avec toi-même des raisons de pourquoi tu vas faire quelque chose, c'est tellement plus facile de l'expliquer aux autres, même si ils comprennent pas, ils comprennent que ça fait sens pour toi. Donc du coup, bon, soit ils acceptent, soit ils acceptent pas. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui me supporte dans, bon, qui pense que des fois je fais des trucs pas très raisonnables, mais au final, voilà, ils savent que
ils l'acceptent quand même, quoi.
Ils l'acceptent et que je vais pas faire des trucs dangereux non plus, quoi.
Oui, oui, ils ont appris à te connaître.
Ouais.
Sur le TTP.
Surtout, ils ont appris à comprendre que
ils n'avaient pas le choix.
Ils n'avaient pas le choix.
Aujourd'hui, tu es un peu une voyageuse à temps plein. Comment est-ce que tu fais pour voyager tout le temps? Est-ce que tu as des astuces? Tu le disais tout à l'heure, tu travailles en général dans les pays. Comment est-ce que tu allies travail et voyage?
Il y a plusieurs méthodes. Bon, c'est clair qu'il faut quand même d'abord avoir un petit peu d'argent sur ton compte en banque.
Donc travailler avant.
Travailler avant.
Ouais.
Travailler avant, avoir un petit peu de thune de côté parce que tu sais jamais ce qui peut arriver et au moins avoir assez pour te payer un billet d'avion retour.
Ouais. Au pire.
Au pire. J'achète jamais mes billets d'avion retour parce que.
Parce que tu sais pas quand tu reviens.
Parce que je sais pas quand je reviens et que j'ai envie de rentrer quand j'ai envie de rentrer et pas parce que j'ai mon billet d'avion qui me dit que je dois rentrer à ce moment-là. Et si ça se trouve, je rentrerai avant ou pas. Le woofing, c'est une bonne manière d'être dans un pays sans dépenser d'argent. Des fois, il y en a qui te rémunèrent. Donc le woofing te permet de voyager sans dépenser. Tu dépenses pour aller à l'endroit, mais une fois que t'es là-bas, t'as le gîte, t'as le couvert, et tu peux te trouver quelques heures dans un café ou un truc comme ça à côté, histoire d'avoir de l'argent de poche. Donc au moins, tu gagnes pas d'argent, mais t'en dépenses pas.
Ouais.
Moi, c'est plutôt cette technique en général que je fais. Tu peux faire aussi aider dans une auberge de jeunesse. Tous les jobs qui te permettent en fait d'offrir tes services
en échange
du gîte et du couvert. Ouais. Donc ça peut être à plein d'endroits différents, ça peut être dans des fermes, ça peut être dans des cafés, ça peut être dans des auberges. À toi après d'avoir l'imagination et surtout de mettre en avant tes qualités, ce que tu sais, ce que tu peux faire ou ce que tu as envie d'apprendre. Parce que ça peut aussi te permettre d'avoir un stage, même si c'est pas considéré officiellement comme un stage.
Ou de l'expérience.
Mais voilà, de l'expérience.
Très bien.
Does it make sense?
Yeah. Notre astuce ou pas?
Travailler, hein, ne pas avoir, en général, moi, j'aime pas vraiment passer du temps sur l'ordinateur à chercher et tout. Donc, en général, j'imprime des CV et je fais du porte-à-porte. Et j'ai trouvé que la restauration, c'est quand même le job qui te permet d'avoir accès à quasiment tous les pays si tu sais plus ou moins parler la langue dans le pays où tu vas.
Mais justement, tu as appris le métier de barista en Australie. Ouais. Comment ça s'est fait, alors, cette expérience-là?
J'ai commencé à travailler dans un restaurant qui faisait aussi des restaurants et puis des cafés, des trucs comme ça. Donc, ils avaient cette grosse machine à café. Et je les voyais faire le lait, des trucs comme ça, faire la mousse et faire des petits dessins. J'ai trouvé ça classe.
Des petites feuilles.
Je me suis dit, tu peux m'apprendre.
J'aime bien.
J'aime bien. Donc j'ai commencé un petit peu à comprendre et apprendre comment utiliser une machine à café, comment faire chauffer le lait pour qu'il y ait de la belle mousse, blablabla. Mais je n'étais pas barista dans cet endroit parce que bon, quand même, mes cafés ils ressemblaient à rien. Donc je ne pouvais pas servir. J'ai travaillé 6 mois et après 6 mois en Australie, il faut que tu changes. Donc je me suis trouvé un autre job où là, c'était dans un café. Et ils faisaient que des takeaways.
D'accord, ok.
Donc, je mettais mon capuchon sur le gobelet et si je faisais nimp, personne ne voyait, quoi. Mais après, si je faisais un truc joli, voilà, je pouvais...
Hey, regarde, j'ai décidé.
T'as vu ce cœur?
Juste pour toi.
Did you see my heart? It's a nice flower, isn't it? Donc voilà, j'ai commencé à faire la main sur les cafés avec ce coffee shop-là. Et puis après, bon, coffee shop a fermé du jour au lendemain. J'étais au chômage.
Ciao.
Voilà, c'est ça aussi la belle vie des voyageurs, c'est qu'en fait c'est précaire, c'est très très précaire. Donc tu es obligé de savoir rebondir dans n'importe quelle situation.
De t'adapter, quoi. Tu as travaillé 6 mois au Portugal, alors que c'était pas du tout le plan à la base.
Non.
Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé?
Le Portugal, ça s'est passé après mes 2 ans en Australie. Mes 10 mois en Nouvelle-Zélande, où j'avais comme fil rouge barista. J'ai travaillé dans tous ces pays en tant que barista. Malaisie aussi, j'ai travaillé en tant que barista. Après, je suis rentrée, j'ai eu une dure rupture avec mes ex. J'ai mis du temps à savoir en fait où est-ce que j'allais, qu'est-ce que je voulais faire et tout ça. J'avais pensé à l'Écosse, parce que l'Écosse, c'était mon premier voyage seul. Au final, le seul voyage seul. En Australie, j'étais plus ou moins seule, mais j'étais jamais seule. Je me suis vite fait des amis,
tout ça. Tu pars seule à la base, mais tu rencontres des gens.
L'Australie, je suis partie avec une de mes potes. Enfin, on a découvert un soir qu'on voulait toutes les deux aller en Australie. On s'est dit, bon, pourquoi pas.
Allons-y ensemble.
Pour moi, c'était le dernier voyage, grand voyage. Parce qu'à l'époque, on avait commencé à reprendre un hôtel avec mon père. Et donc, j'étais censée partir en Australie. J'avais déjà mes billets. Donc, j'ai dit à mon père, écoute, j'avais commencé à travailler avec lui. Ça se passait super bien. Je me voyais totalement revenir, travailler dans cet hôtel et le transformer au fur et à mesure en auberge de jeunesse. Sauf que quand j'étais en Australie, au bout de 6 mois, mon père m'appelle et me dit que en fait le projet de l'hôtel c'est fini, c'est mort. Ça tombait bien parce qu'au final c'était exactement la période où j'avais rencontré mon ex. Puis je me sentais bien en Australie, j'avais un super travail. Donc ça m'a permis de me dire bon ben je reste. Il y a 2 ans et demi qui se sont passés et je suis rentrée. L'Écosse, j'avais plein de pistes, coffee shop et tout. Rien de vraiment concret, mais en gros, chacun me disait que mon profil les intéressait beaucoup parce que j'avais un niveau d'anglais que j'avais acquis lors de ces voyages, puis un niveau de barista aussi parce que en Nouvelle-Zélande et en Malaisie, j'étais barista chef. Enfin, ou si le chef n'était pas là, c'était D'accord. moi qui étais derrière la machine à café et qui envoyait la sauce, quoi.
Et ça, c'est grâce à tes expériences en Australie où t'as testé, quoi.
Voilà, où j'ai testé. Et puis, même quand tu vois, ils te demandent si tu sais pas faire, tu tournes le sens dans le truc que tu sais faire plein de trucs et que ça, t'as vraiment envie de l'apprendre, quoi.
D'accord, ok.
Et donc, la manière dont tu tournes la chose, t'as des lacunes, mais tu veux qu'une chose, c'est apprendre d'autres trucs. Et la pluie.
Il pleut
parce que nous sommes en Écosse.
Donc la pluie fait partie.
La pluie en fait partie.
Et donc le Portugal.
Mes copines me disent, ok, avant que tu partes en Écosse, parce que on sait pas combien de temps tu vas y rester, vas-y, on part en vacances 3 jours.
Ok.
On regarde les billets. Bon, bah il y avait des allers-retours de Strasbourg-Porto à 60 euros.
Allez,
on y va. Pendant ces 3 jours, je me voyais totalement rester là et travailler. C'est une vie magnifique. Et le dernier soir, on sort avec mes copines, on rentre assez tard et on pouvait pas aller dormir direct, il fallait qu'on boive de l'eau. Donc on est allé à la réception et puis c'était une réception 24 heures sur 24. Donc il y avait un type, Greg, qui était à la réception. On commence à discuter avec lui et moi je lui dis que je suis barista. Et il me dit « Ah, tu travailles dans un tribunal et tout ?» J'étais « À quoi ?» Donc, et il me dit là, demain matin, je vais boire un café, enfin juste après au final, je vais boire un café avec un de mes potes qui est ukrainien et qui justement ouvre un coffee shop dans un mois. à Porto. Et je te donne-moi ton adresse mail. Et avant de me coucher, je t'envoie mon CV. Tu le donnes à ton pote. Et
ce, à 4h du matin.
C'était plus 6. Mais tu vois, j'avais encore le... Ouais. En fait, il ne faut pas être fermé aux opportunités. Ouais. Et là, pour le coup, j'ai vraiment saisi ma chance, quoi. J'y suis allée au culot et je dis, écoute, franchement, moi, ça me plairait de bosser. Si tu veux, dis-lui que je peux passer à son coffee shop avant d'aller
prendre
l'avion. Donc, s'il est intéressé, quoi. Le lendemain, on va se promener avec mes copines. Et puis là, je reçois un appel manqué. Et puis, il me laisse un message. Bien sûr, mon téléphone ne fonctionnait pas à ce moment-là. Donc en gros, on a couru à l'hostel, on a pris nos affaires et on est allé au coffee shop. Et j'ai rencontré Dan et on a discuté et tout. Donc il avait un très bon anglais parce qu'il est ukrainien. Mm. Je lui dis bon, là, faut que j'aille prendre mon avion. Hein. On se rappelle dans quelques jours si toi, ça t'intéresse toujours que je bosse pour toi et inversement. Et on voit ce qu'on fait. On a eu l'interview. Il était au taquet. Je lui dis ok. Il y a juste un problème, c'est que je ne parle pas portugais. Voilà, t'as un gros problème, il dit.
Petit problème.
Bon, ok, bah va falloir que t'apprennes. Bon, ok, ça marche.
Allez, go.
Du coup, quand même, je repartais genre 3 semaines après.
Ah ouais.
Donc
3 semaines pour apprendre le portugais.
Ouais. Je suis allée voir, j'ai trouvé des cours avec un Brésilien. Et donc, j'ai eu 3 cours, un truc comme ça. Et puis, j'arrive au Portugal, à Porto et tout. Et puis, j'ai essayé de baragouiner, tu vois, peu de mots que j'avais appris. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne comprenait pas. Ils m'ont expliqué que le portugais parlé au Brésil n'est pas vraiment le même que le portugais parlé au Portugal. Et donc là, je me suis dit, ok.
Donc, je vais bosser.
Et puis, je vais me trouver une école où je vais prendre des cours de portugais. Donc, j'ai pris des cours de portugais, et là, je crois que j'ai un niveau A1, un truc comme ça, une conversation.
Ouais.
Moi, j'étais payée 3 euros de l'heure au Portugal, et c'est là où je faisais 80 heures par semaine, dans une semaine. Mais après, j'avais l'autre semaine où j'avais rien. Donc, ça me permettait d'être en Europe. Je voulais rester en Europe parce que j'avais des amis qui se mariaient et je voulais pas être je sais pas où et devoir prendre un avion pendant 15 heures et voilà. Ouais. Donc je voulais rester en Europe et je pouvais aussi avoir le temps d'accueillir ma famille et mes amis s'ils voulaient me visiter. Donc je bossais à fond pendant une semaine, cours et puis boulot.
Ah ouais, t'enchaînais.
Ah ouais, j'enchaînais, j'avais 5 heures de cours par semaine. J'ai fait ça pendant 2 mois. Mais ça l'a fait. Greg, qui m'a trouvé plus ou moins mon taf, partait juste une semaine après que j'arrive et j'ai pu récupérer son appartement qui était en plein centre de Porto dans une coloc où je payais, je crois, 150 euros par mois, quoi.
Mais ça, donc, cette expérience-là, c'était pas du tout planifié. Tu l'as eu vraiment parce que tu étais à l'écoute des opportunités. Et t'as complètement changé ton plan parce que du coup, t'as laissé tomber l'Écosse.
Oui. En fait, c'était soit je retournais en Écosse, dans un endroit où j'étais déjà allée, ou alors je me mets un petit challenge, je vais à Porto et puis Inch'Allah j'aurai du soleil et j'apprendrai le portugais. Parce que jamais de ma vie je me suis dit
tiens, j'ai envie d'apprendre le portugais.
Ouais. Ou alors ou que je pourrais comprendre le portugais un jour. Ouais. C'est toujours l'espagnol.
Comment est-ce que tu fais pour savoir saisir une opportunité et pas passer à côté et faire la différence entre une bonne opportunité et une moins bonne opportunité?
Ça va dépendre de chacun. Mais comment je fonctionne, je verbalise des choses. Alors là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est de verbaliser?
Mais qu'est-ce que la verbalisation?
Qu'est-ce que la verbalisation? C'est de te dire à toi-même à voix haute, mais bon, là, tu parles à toi-même, donc ça peut être mal vu, mais en parler dans une pièce avec des gens, avec un interlocuteur, et dire, j'aimerais savoir faire du pain. J'aimerais pouvoir vivre dans cette ville. Mm-hmm. Ce que j'ai fait avec mes potes. Quand j'étais au Portugal, à Porto, j'aurais dit, moi je me vois bien vivre ici. Il n'y a pas des cafés, je regardais un petit peu.
T'étais plus alerte, quoi, du coup.
Ouais, je suis plus alerte. Donc à partir du moment où tu verbalises ton envie, ça veut dire que tu t'ouvres les portes à ce que cette envie se réalise. Parce qu'elle ne reste pas dans ta tête.
Et ça devient plus concret, peut-être, aussi.
Et ça devient plus concret, peut-être. Et même si inconsciemment, tu ne dis pas forcément cette chose-là, parce que tu dis que tu veux absolument quoi, c'est « Ah, j'ai une idée, ah ce serait cool de pouvoir faire ça. » Mais en fait, du coup, tu ouvres tes oreilles et tes yeux à des conversations, à des gens, à plein de choses inconsciemment et qui t'amène au fil du temps et qui te permet de concrétiser cette envie. Je sais pas si c'est très
si, c'est clair.
Clair, mais moi je vois comme ça.
C'est un peu comme si tu l'écrivais ou si tu... Ça reste pas qu'une idée, quoi.
Oui, voilà. Tu la sors de ta tête, tu la verbalises, alors elle est réelle.
Bon, c'est pas parce que tu es ma cousine, mais moi, tu es la personne la plus positive que je puisse connaître.
Ah, oh. Je le prends d'une manière positive.
Ça tombe bien, c'est positif.
Merci beaucoup.
Tu es toujours souriante et de bonne humeur. Donc, j'aimerais savoir quel est ton secret pour rester positive, même quand il se passe un truc vraiment relou.
Vraiment pas positif. Mon secret pour être positif, ce n'est pas vraiment un secret, c'est juste que j'ai très vite compris que le stress me fait mal physiquement. Donc c'est pas que ton cœur qui s'emballe et tout, c'est des remontées d'acide, c'est mon ventre qui me fait mal, c'est vraiment physique, c'est vraiment physique. Et je me suis dit, je vais arrêter de stresser.
Attends, mais j'ai la solution.
du coup, qu'est-ce que je peux faire pour éviter au plus un moment de stress? Par exemple, t'es sur l'autoroute, t'as toujours des gens qui te font des queues de poisson ou des bouchons ou des trucs comme ça. Et t'as beaucoup de gens qui s'énervent, mais au final, tu peux rien y faire. Oui, donc, à quoi bon stresser? Donc, si tu stresses pas et si tu prends cette situation comme... ça va me donner le temps d'écouter un podcast, d'écouter une musique que t'as pas écoutée depuis longtemps, de réfléchir à des choses que t'as pas le temps de réfléchir parce que t'es toujours pris dans quelque chose. Donc, tourner la situation, même si c'est une situation qui te fait chier, la tourner de manière à ce que tu puisses en prendre du positif.
Est-ce que t'as déjà eu une situation de voyage où il t'est arrivé un truc pas cool, et comment est-ce que t'as réussi à retourner?
Les situations pas cool quand t'es en voyage, c'est quand il te faut absolument trouver du travail. Tu vois, tu viens de te faire licencier et faut rebondir. Ce que je me dis, c'est que c'était peut-être pas le boulot qu'il me fallait. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui t'attend et vas-y, trouve-le. Et puis c'est en général à ce moment-là que tu vas discuter avec une personne et qui va te dire on a une place,
une opportunité
dans un café, dans un resto ou quoi.
Est-ce que tu connais la loi de l'attraction?
Alors est-ce que ce serait envoyer du positif pour recevoir du positif?
En gros, ouais. C'est on attire ce qui nous arrive, se dire qu'on est 100% responsable de sa vie et que donc tout ce qui est vécu, c'est toi qui le décide, en gros, que t'attires le bon, le mal, et c'est à travers tes pensées, qu'elles soient négatives ou positives, que t'attires ça.
J'essaye vraiment de fonctionner de cette manière. Parce que, déjà, être négatif, ça te bouffe de l'énergie. Beaucoup plus d'énergie que d'être positif. Surtout que moi, je suis quand même une personne très lente. Vous pouvez l'entendre à travers la manière dont je m'exprime.
Ça va encore.
Ça va, mais parce que je fais vraiment des efforts tous les jours pour essayer que dans ma tête ce soit moins le bordel. Mais c'est pas facile. Mais c'est un exercice aussi pour moi de pouvoir mettre mon sac de nœuds sur la table et essayer de le. Même mes parents, ils m'ont raconté récemment quand je rentrais de l'école quand j'étais petite, ils savaient qu'à partir du moment où ils me demandaient « Colline, comment ta journée s'est passée ?» il fallait être patient.
Ça restait en mode «
Ok, tout le monde se tait, allez, sors tout ce que t'as.
» Concentre-toi.
Concentre-toi, on va essayer d'en faire une histoire cohérente. Parce que quand je raconte une histoire, pour moi, la manière dont j'ai vécu le moment est dans les détails. Donc si je ne raconte pas ces détails, pour moi, je ne raconte pas la vraie histoire.
D'accord, ok. C'est pour ça que certaines parties sont longues.
Exactement.
Par rapport à ça, tout ce qui est positivité et tout, en avril dernier, tu as décidé de partir un mois en Thaïlande pour faire donc yoga teacher. Quand est-ce que tu as découvert le yoga? Pourquoi tu as voulu devenir prof? Aussi, qu'est-ce que ça t'a appris dans la vie?
Je finissais de travailler au Luxembourg l'année dernière. et j'avais commencé à travailler avec mon père. À l'époque, j'avais plus ou moins un copain et on s'était dit en fait qu'on allait se retrouver février et mars, on se retrouvait en Asie. Lui, il faisait son année en Australie, il faisait les fermes et au fur et à mesure, en fait, il s'est rendu compte que il allait passer plus de temps en Australie parce qu'il devait finir ses fermes. Et donc moi, j'avais ce laps de temps qu'il fallait que je comble. Donc je savais que j'allais probablement retourner en Malaisie. Laurie, ma pote belge, que j'avais rencontrée l'année d'avant en Malaisie, avec qui on était toujours en contact, qui m'avait dit un jour, j'aimerais bien faire truc de yoga. Mm-hmm. Moi, j'avais commencé depuis que j'étais revenue de Malaisie à faire un peu de yoga avec ma mère parce que c'était quelque chose qu'on pouvait faire toutes les deux et passer un moment ensemble et puis c'était cool. Donc j'ai commencé comme ça à faire du yoga. Et donc on s'est rappelé avec Laurie, elle m'a expliqué et tout, et puis je regarde sur internet, et là je me disais, j'ai pas forcément envie d'être prof de yoga, au moins j'aurai quelque chose en plus dans mon CV, et puis je vais découvrir ce que c'est.
Ça pourra toujours te servir à un moment donné.
Et puis comme ça, ça me permettrait de savoir ce qu'il y a vraiment derrière ce mot, yoga. Ça m'a plutôt rassurée dans ma manière d'être moi-même. De me dire qu'au final, j'étais pas si chelou que ça.
C'était plutôt dans le vrai.
Et que en fait, ça a mis juste des mots sur des choses que j'avais pu penser ou pu vivre ou pu voir, où les autres personnes peuvent croire que je suis un petit peu perchée de temps en temps. Ouais. Et au final, c'est vrai que la manière de vivre, yogi, donc pas forcément tout, j'adhère pas forcément à tout et je ne pratique pas forcément la totalité du yoga parce que t'as pas mal de piliers, t'as la pratique de yoga, mais il y a aussi la méditation, il y a la manière de respirer, il y a plein de choses. Ça m'a permis d'approfondir certains sujets avec des personnes qui étaient ouvertes à ces discussions-là.
Ouais.
Les discussions
spirituelles,
un peu, c'est compliqué de les aborder avec tout le monde, et puis c'est pas forcément de ça que tu parles entre la poire et la pomme, quoi.
Comment est-ce que t'as fait pour que tes proches acceptent ton mode de vie? Et aussi, une autre question du coup, comment est-ce que tu réagis devant l'incompréhension de certaines personnes quand ils te disent c'est quoi ton boulot en fait? Est-ce que ça t'est arrivé déjà?
Ou est-ce que qui me demande si tu fais quoi dans la vie?
Ouais, dans la vraie vie, tu fais quoi, en fait?
Ouais, là, je suis là. Ouf!
You don't wanna know!
Je sais pas trop, en fait.
Ouais.
Ouais.
Tu te fais pas, t'expliques pas, tu te prends pas assez de quoi?
Ça dépend. Ça dépend qui me pose cette question, si je veux faire court, si j'ai pas forcément envie de tout expliquer ou quoi. Mais là, par exemple, en ce moment, ce que je disais, c'est que, je bosse pour mon père et puis j'ai un mi-temps et puis voilà quoi. Donc ça me permettait bien. Mais sinon, je suis serveuse dans un resto en Australie. Je suis barista dans un...
Ouais, tu changes quoi.
Voilà. Et puis c'est fini, mais dans 2 mois, je repars là et puis je me recherche du taf.
Ouais.
Parce qu'en général, quand tu décides de quitter un pays pour aller dans un autre, pour moi, je regarde toujours si j'ai pas des potes qui sont dans le coin. Donc ça te permet d'avoir des bons plans aussi. Et d'aller d'un pays à un autre en connaissant quelqu'un. Donc certes, tu y vas toute seule parce que tu prends l'avion toute seule, mais après, moi maintenant, en général, je rejoins des gens que je connais déjà et qui peuvent m'héberger pour là ou les premières nuits, jusqu'à ce que je décide d'aller quelque part ou de trouver un autre boulot. Mais en général, je vais d'un endroit à un autre à condition qu'il y ait du boulot.
J'y vais pas. Tu ne choisis pas parce que tu aimerais bien aller. Enfin, si, quand même un petit peu.
Si, mais dans ce cas-là, je fais en sorte de me trouver un job.
D'accord.
Ou avoir beaucoup de pistes avant d'y aller.
C'est une excuse un peu.
Voilà, une excuse. Ouais. L'excuse pour pouvoir me dire, ok, maintenant j'y vais. Et après, des fois, ça ne fonctionne pas quand il y est. Il faut que tu trouves un boulot. Oui. Mais au moins, tu y es. Et du coup, t'as pas le choix.
Ouais.
Et de te mettre dans une situation où t'as pas le choix pour justement te bouger les fesses et trouver des solutions. C'est pour ça aussi que je voyage. Pour me prouver à moi-même que je peux surmonter les inconnus et toutes les merdes qui peuvent m'arriver pendant que je voyage. Comment réparer Gunther? Gunther, c'est mon camping-car.
Et du coup, bah, tu disais justement que tes voyages, ça t'a permis de connaître plein de gens. Et donc, parlons un petit peu de tes relations, parce que tu as des amis partout dans le monde. Alors, la question, c'est comment est-ce que tu fais pour rencontrer autant de gens et surtout garder des bonnes relations avec elles? Parce que souvent, tu voyages, tu rencontres des gens, tu as partagé un moment ensemble, mais t'as pas forcément derrière, tu as pas forcément gardé contact, quoi.
Oui, moi, après, j'ai pas gardé contact avec toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant mes voyages. Mais c'est vrai que dans chaque pays, il y a eu une rencontre plus forte que les autres. En Australie, du coup, ça a été ma pote coréenne Mihun, que tu as d'ailleurs rencontrée,
oui, à Noël.
Qui est devenue à Noël. Et que je suis allée voir quelques années plus tard en Corée, dans sa famille. Dans chaque pays, il y a une rencontre un petit peu plus forte qui est souvent la rencontre qui va t'amener à aller quelque part. À aller dans un pays ou à aller faire justement Laurie, ma pote belge que j'avais rencontrée en Malaisie. C'est parce que j'ai gardé contact avec elle.
Et comment tu gardes contact alors?
Ben, j'envoie des messages de temps en temps.
C'est une question con, mais...
Ou alors, j'envoie une photo de...
une tente bizarre.
Et puis, il se marre, et puis... qu'est-ce que tu fais? Une fois de temps en temps. T'es pas obligé d'avoir contact toutes les semaines. Après, t'as des personnes avec qui, forcément, tu gardes contact un peu plus longtemps, mais t'en as une fois par mois, une fois tous les deux mois. Mais tu sais... Même si t'as 6 mois qui se sont passés entre les deux, ça te fera toujours plaisir d'avoir des nouvelles une fois de temps en temps. Et de ne pas avoir peur d'envoyer un message à quelqu'un juste parce que tu penses à lui ou à elle. Genre, aujourd'hui, t'as entendu une musique et puis ça t'a fait penser à un moment que t'as partagé avec cette personne. Et même si ça fait 6 mois que tu lui as pas envoyé un message... Bah, tu peux lui envoyer un message. Parce que l'autre personne, si c'était aussi un bon moment pour elle, ça va lui faire plaisir de se remémorer ce moment. Et donc, tu gardes contact avec les personnes au fur et à mesure.
Et concernant, du coup, on a un peu parlé tout à l'heure, un sujet qui inquiète beaucoup de personnes qui voyagent, j'imagine, les relations amoureuses et le voyage. Tu disais que tu as eu quelques fails. Comment est-ce que tu fais? T'as pas la solution en fait.
Non, j'ai pas la solution parce que sinon je ne serais pas célibataire.
N'est-ce pas? Pour garder, ouais, c'est ça, comment est-ce qu'on fait pour garder une relation amoureuse quand on est en permanence en train de bouger?
Les relations amoureuses en voyage, c'est génial parce que ça fait partie du voyage aussi. Et tu passes des super moments avec la personne avec qui t'es. C'est encore plus fort parce que tu sais pas en fait si à un moment donné l'un ou l'autre veut aller quelque part ou
t'as pas un avenir
non c'est incertain et donc c'est comme toutes les relations dans le voyage. Tu peux avoir des relations amoureuses avec des hommes ou des femmes mais en tant que partenaire de vie, mais tu peux aussi avoir des relations amoureuses avec des amis et ça elles sont encore plus belles ces histoires. Donc oui, de toute façon, l'amour est présent.
J'ai envie de dire. Love is everywhere.
Après, c'est vrai que quand des relations amoureuses en tant que partenaire de vie, on va dire, c'est vrai qu'à un moment donné, relations à distance, c'est très compliqué.
Oui.
TMTC. C'est très compliqué.
Je témoignerai dans un prochain épisode.
Ouais, c'est très compliqué et... Et voilà, bon après, soit t'es prêt à ça, soit tu l'es pas. Et les échecs que tu vas endurer lors de ruptures, surtout si elles arrivent pendant un voyage et si t'es seule et pas entourée de tes proches qui sont en France, là c'est encore plus dur. Et c'est là en fait que t'as pas le choix et t'es... Voilà, soit...
Comment tu gères alors?
Soit ton envie de rester dans ce pays est plus forte que tout et t'as des potes... de substitut. il y a des pétards.
Ouais. C'est pas grave.
Soit ton envie de rester dans ce pays est plus forte que tout et t'y restes et tu te bouges les fesses et tu te bats. soit tu rentres en France, et c'est pas forcément un échec non plus,
oui.
loin de là.
T'as su faire le choix qu'il fallait.
Mais t'as su faire le choix
ouais.
De rentrer en France, surtout pas le voir comme un échec, mais plutôt dans le sens où ben, t'es entouré des personnes avec qui t'as envie d'être, avec qui...
En ce moment-là, quoi.
En ce moment-là, ouais, et qui t'as besoin, et c'est eux qui te permettront de t'aider à passer à autre chose.
On va parler de ton nouvel amoureux, Gunther.
Gunther, oui.
Donc parle-nous de Gunther. Qui est Gunther?
Alors Gunther est allemand.
Gunther est allemand, comme son nom l'indique.
Comme son nom l'indique, Gunther est allemand. Il est de 85.
Ouais.
Donc il est plus vieux que moi, de 3 ans. Et Gunther a surtout 4 roues. Une douche, un salon, une chambre, une cuisine et un volant.
Où nous sommes présentement.
Où nous sommes présentement.
Nous sommes actuellement dans la partie salon de Gunther.
Oui, avec ses petits rideaux alsaciens au cœur.
Avec des petits cœurs.
Donc Gunther est mon camping-car de 85, un peu vintage. Pareil, c'était un petit peu en Paris. Hein, quand j'ai rencontré Gunther, on s'est rencontrés sur Le Bon Coin. Et il était vraiment pas cher et je me suis dit allez je vais le visiter et il y avait quand même pas mal de choses à faire dessus. Et parce que je l'ai acheté sans contrôle technique. Et j'ai dû attendre 2 mois pour savoir si Gunther pouvait rouler. Et j'ai serré les fesses. Je savais déjà plus ou moins où est-ce que je voulais aller, mais je ne voulais pas commencer à faire des recherches.
D'accord.
Plus ou moins à designer le chemin pour aller là où je voulais aller. Et parce que je voulais pas commencer à me projeter dans Gunther s'il pouvait pas rouler. Il a eu le 11 septembre. Petit tampon, c'est bon, tu peux rouler. Et donc là, à partir de là, je me suis dit, ok, je vais en Écosse. Je passe par la Belgique, par la Hollande, je prends le bateau.
Et du coup, ben voilà, donc tu as ce projet avec Gunther, qui est donc de traverser un petit peu le nord de l'Europe jusqu'à l'Écosse, où nous sommes actuellement, je le rappelle.
Mm-hmm.
Mais il y a un projet en parallèle.
Ah bon?
Les potes.
Ah oui, les potes. Oui, bah oui, le projet en parallèle, quand même, est de pouvoir aller voir des potes que j'ai rencontrés lors de mes voyages et que j'ai pas forcément eu l'occasion de revoir depuis un certain temps. Donc comme ça, je suis passée par la Belgique où je suis allée voir Laurie, donc ma pote belge que j'ai rencontrée en Malaisie. Milena, une autre pote belge qui a fait le teaching yoga avec nous aussi. Et Jiwa aussi, une de mes potes hollandaises que j'ai rencontrée il y a 5 ans, ma première année en Australie. Avec qui on s'envoie de temps en temps des messages, mais pas tout le temps. Mmh. Mais t'as pu voir, c'était génial de la revoir. Et, et ça faisait comme si on s'était vu la veille, plus ou moins. Quoi.
Ouais.
Parce que c'est une des personnes avec qui on a vraiment accroché. On est allé, on a passé quelques jours en Zeeland, donc une partie de la Hollande, où c'était magnifique,
trop
dans
beau.
Cette maison de famille où on a rejoint ma pote Denise que j'ai rencontrée aussi lors de ce yoga
qui nous a hébergé
qui m'avait déjà hébergé en début d'année quand j'étais allée faire la conférence des Tiny House à Amsterdam, qui m'avait aussi hébergé à ce moment-là et avec qui on a passé un super moment. Donc, voilà.
Ouais.
Et là maintenant on est avec dans Gunther avec ma pote Sarah anglaise, que j'ai rencontrée en Malaisie aussi, qui, elle, a pour le coup 51 ans. Comme quoi, on se fait des amis de tout âge quand on voyage.
Et du coup, pourquoi est-ce que t'as choisi d'investir dans un camping-car et pas dans un appartement, par exemple?
Parce que déjà, ça coûte moins cher qu'un appart. Deuxième chose, c'est que je préfère...
Ça a
4 roues, donc je peux me déplacer avec et ma maison et ma voiture pour aller d'un endroit à l'autre. Pour aller d'un travail à un autre, d'un pays à un autre, d'un ami à un autre. Et c'est surtout, je ne veux pas faire d'emprunt. Ou si un jour, les emprunts, ça me fait peur.
Pourquoi?
Parce que tu sais même pas si t'as encore un an à vivre. Pourquoi faire un emprunt sur 30 ans alors que tu sais même pas si tu vas les faire ces 30 ans? Si un jour je fais un prêt, je préfère faire un prêt sur un terrain où je pourrais poser mon camping-car ou ma tiny house, plutôt que d'investir dans une maison pour laquelle au final tu vas devoir te trouver un travail, si t'as la chance un travail que t'aimes,
ouais,
mais sinon un travail alimentaire, juste pour payer ta maison, pour payer tes charges, pour payer tout ce que t'as à payer, et au final te retrouver avec un tout petit peu d'argent pour ne même pas pouvoir faire ce que t'aimes faire. Donc voilà,
je préfère... attendre le week-end
ou attendre le week-end ou... après ouais. ça me dérange pas de beaucoup travailler, de tant que c'est un métier que j'aime. C'est pour ça que je peux aussi quitter un restaurant parce que le managing ne me plaît pas et que j'y apprends rien, on prend même pas un savoir-vivre parce qu'il n'y en a pas. Ça te permet aussi de pouvoir être libre, de te dire j'ai le droit de quitter ce travail parce qu'il ne me plaît pas et que je vais en trouver un autre. Parce que j'ai un appartement qui ne me coûte pas cher et qui me permet de vivre simplement, de pas avoir trop de choses non plus. Même s'il y a quand même pas mal de place dans Winter.
Il y a beaucoup de place dans Winter, ouais. Effectivement.
Mais oui, de vivre léger et... on est libre de choisir si on veut un enfant ou pas.
Oui.
On est libre de choisir un travail, si on a les capacités à assumer ce travail.
Oui. Après, comme tu disais, il faut aussi se donner des opportunités. Il faut... Si t'as envie de faire quelque chose...
C'est vrai, oui.
Si t'as envie de faire un truc, mais en fait c'est vrai, quand tu réfléchis, parfois tu te mets des barrières tout seul. Alors que si tu... Alors après tout n'est pas faisable, hein, si tu veux devenir astronaute, je ne sais pas, oui effectivement. Voilà.
Mais une phrase qu'on nous a dit pendant ce truc de yoga, c'était « fake it until you make it ».
Ah ouais, je la connais bien celle-là.
Donc, je la fais souvent, je l'applique souvent.
Mais c'est une phrase de start-upper ça.
Ah ok, ouais. Je savais pas. Je suis peut-être une start-up.
Je suis une start-up à moi-même.
Je suis peut-être une start-up à moi-même.
Ok, alors, deux dernières questions pour finir. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Est-ce que tu te projettes déjà ?
Non.
Non.
Non. Non, là, je suis en école, je sais même pas si je rentre pour Noël. Donc, non, je t'avoue que dans 10 ans... je sais pas, ce que j'aimerais bien quand même... c'est trouver oui, parce que avec Gunther, avec le voyage, tu peux trouver peut-être un endroit où tu te sens bien, ou peut-être juste réaliser que l'endroit où tu te sens mieux, c'est chez toi, là où il y a tes parents et ta famille.
Ça peut être ça aussi.
Non, dans 10 ans, franchement, je ne sais pas.
Advienne que pourra.
Ouais.
Dernière question.
Last question,
which is, comme tu le sais, ce podcast s'appelle
De vraie vie.
Je t'ai déjà expliqué pourquoi.
Oui.
Voilà, parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin.
Exactement.
Et tu en es la preuve. Et donc, j'aimerais savoir, pour toi, c'est quoi la vraie vie ?
Ce serait faire ce que t'as envie de faire, avoir le courage de mettre de côté les choses qui t'empêchent de faire ce que t'as envie de faire.
Les peurs.
Ouais. Et la peur est une grosse part. En général, quand tu commences un projet, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Si tu as peur de voyager ou quoi, d'acheter le billet d'avion, c'est ça en fait qui va te dire j'y vais quoi. Et après, c'est le premier pas dans l'engrenage, mais après, t'as le deuxième, t'as le troisième qui viennent. Mmh. Et c'est clair que des fois, c'est pas facile hein, de faire ce que t'as envie de faire et de faire les choses qui te rendent heureuse. Mais c'est possible, faut juste être positif, y croire et t'envoyer des bonnes ondes.
La positivité.
Ouais, la positivité. Oui. Positivité.
Je couperai pas ça.
Tu couperas.
Non.
Non, si tu couperas.
Non, c'est mort.
Non, merci Laurie. pour tes belles paroles. On va faire les choses rendre heureuses.
C'est bien.
Même si c'est difficile d'arriver à les faire. À la fin, ça vaut le coup.
Ouais ça vaut le d'avoir coup, au moins tenté, quoi.
Ouais, d'avoir au moins tenté.
Pour pas avoir
parce
de
que,
regrets.
Ouais, parce que vaut mieux avoir...
C'est ma phrase préférée.
C'est quoi, déjà ?
Vaut mieux avoir des remords que des regrets.
Ouais.
Faire un truc. Bon, ça dépend dans quelle situation.
Mais on est d'accord que...
C'est au moins dire, j'ai essayé. S'il y a un échec,
au moins t'as tenté.
C'est quoi un échec déjà ? Ça t'a forcément appris un truc.
Ouais. Et tu te relèves, tu rebondis.
Et voilà. Et le prochain coup, tu sauras.
Ouais. Et aussi, merci Into the Wild, le bonheur ne vaut d'être vécu que s'il est partagé.
Oh.
Ouais.
Beau.
Beau.
Sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Colline.
Merci, Natasha. La positive attitude.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Vraie Vie. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à me laisser quelques étoiles sur iTunes. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux, Instagram, Twitter ou Facebook, @DeVraieVie. À bientôt !